C'est une matinée un peu spéciale parce que on a décidé avec Frédéric d'intervenir tous les deux. Une prédication avec deux prédicateurs. C'est pas une prédication justement, même si c'est basé sur la parole, même si on va étudier des sujets bibliques. On avait à cœur quand même d'apporter des éclairages sur la période qu'on traverse, parce que on a des oui-dire, on entend des choses à droite, à gauche, et même parmi nous, on sait que des choses sont dites et malheureusement ne sont pas toujours correctement dites. On va y venir. C'est la raison pour laquelle on a voulu ce matin faire cette matinée un peu spéciale sur en prenant l'actualité. Donc elle va se découper en deux temps. Donc moi je vais intervenir dans un premier temps. On va évoquer ce qu'est notre base pour nous enfants de Dieu par rapport au temps dernier. Quelles sont censées être nos bases, d'accord? Et ensuite, Frédéric interviendra et il parlera de manière un peu plus précise sur le vaccin avec le chrétien. Si ça peut, je ne sais pas si je résume bien, mais il m'a pas montré ce qu'il voulait dire, donc je laisserai la place à Frédéric après. Alors, en attendant, on va essayer de mettre la bonne source. Alors, j'ai prévu un PowerPoint, c'est pas dans mon habitude, mais je pense que c'est nécessaire. Ça va arriver, hein. Hop. Voilà. Alors, les derniers temps. Et l'image que j'ai choisie, ce n'est pas au hasard. Souvent, quand ce sujet est traité, on voit une grande planète Terre, des monstres, tout ce que vous voulez. La Bible, quand elle donne le nom de l'Apocalypse au départ, ça veut dire révélation, dévoilement. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais c'est un rideau. Et c'est blanc, parce que pour moi, l'Apocalypse, pour nous qui sommes chrétiens, c'est signe d'espérance. D'accord ? Il faut que vraiment, pour nous, ce soit quelque chose qui soit ancré profondément dans nos cœurs. L'Apocalypse ne nous a pas laissé pour nous faire peur, mais pour autre chose. Et j'avais indiqué ce verset. Vous pouvez vérifier dans vos Bibles si vous voulez. Et je pense que si on avait plus en tête ce verset, on éviterait de dire beaucoup de bêtises. Et ça, c'est cité dans un chapitre bien particulier. C'est le chapitre qu'on appelle le chapitre de l'amour. C'est ce fameux chapitre où l'apôtre Paul, il dit que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour supporte tout, etc. Et c'est là une des conclusions de ce chapitre. Qu'est-ce qu'on y lit ? Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face, le « alors » c'est quoi ? C'est quand on sera avec lui dans l'éternité, dans le ciel. Alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Et ça, c'est un texte qui doit être pour nous un fondement, parce qu'on ne peut pas affirmer, vous savez, le livre de l'Apocalypse et les textes prophétiques, on peut voir certaines choses. Mais ce texte est pleinement, il a tout son sens, parce que nous ne voyons que partiellement les choses. Et ça, il faut l'accepter. Et de par le fait que nous voyons que partiellement les choses, il faut accepter qu'il y ait plusieurs manières d'interpréter les choses. D'accord ? On voit que partiellement. Donc, du fait de ce côté partiel, eh bien, on est obligé d'avoir une certaine attitude. Le cadre de notre intervention ce matin, c'est ceci. Le texte ici, encore une fois, toujours issu du même chapitre, c'est le verset qui suit. En somme, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Que tout ce qu'on fasse, que tout ce qu'on dise soit fait pour l'amour de mon frère, l'amour de ma sœur. Or, qu'est-ce que je vois ? Eh bien, moi je vois que parfois, au nom de notre foi, je peux faire du mal à quelqu'un. je suis tellement convaincu de quelque chose que j'en arrive à être virulent dans mes propos. Et je crois que ce soit pour des convictions de notre vie de tous les jours ou par rapport à l'actualité ou par rapport au temps dernier comme il est écrit dans la parole, ça reste valable. Ma foi n'a pas à détruire mon frère ou ma sœur parce qu'il n'a pas la même conviction que moi. Et ça, c'est super important. Au nom de ma foi, je peux faire du mal à un frère ou à une sœur. Je ne sais pas si on le réalise. Mais ça arrive. Hein. Au nom de mon espérance, je peux aussi faire du mal à mon frère ou à ma sœur. Toujours en lien avec la foi. Parce que je vais mal m'y prendre, je vais mal expliquer, je vais mal partager ce que je ressens. Ce que je partage aux autres, est-ce que c'est bien motivé par l'amour ? Moi, j'avais envie de planter ça avant d'aller plus loin, parce que c'est vraiment la base de notre communauté. C'est la base de notre communauté. Ce que je dis, qu'est-ce que je dis déjà ? Qu'est-ce que je partage ? Est-ce que ce que je partage, ça vient de la parole ? Est-ce que ça vient d'ailleurs ? Et ce ailleurs, malheureusement, aujourd'hui, il fait peur, parce qu'on entend de tout et n'importe quoi sur Internet. Il y a des bonnes choses, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises choses. Qu'on ne soit pas comme ce fils des prophètes qui, dans l'Ancien Testament, il pensait trouver des courgettes et il a récupéré des colocanes sauvages. Et il a ramené dans le potage du poison. Malheureusement, dans l'Église, on est beaucoup à aller chercher des colocanes sauvages et à empoisonner nos frères et nos sœurs avec des convictions, avec des choses. Et en plus, on les partage pas comme il faut. Comment est-ce que je partage à mes frères, à mes sœurs ? Comment est-ce que je le dis ? Est-ce que je le dis en accusant parce qu'ils pensent pas comme moi, ou est-ce que je le dis avec une bienveillance ? Le Seigneur nous appelle à partager avec bienveillance et à toujours considérer que l'autre peut ne pas comprendre, etc. Au sujet des temps derniers, vous voyez le titre, personne n'est d'accord. Et c'est une des conséquences de ce tout premier verset qu'on a vu. On ne voit que partiellement. Du fait qu'on ne voit que partiellement, ben chacun il discerne quelque chose et on n'est pas tous d'accord. Et Dieu l'a voulu. Parce que sinon, ça aurait été clair. Dieu l'a voulu ainsi. Et moi, ce que je lis dans l'Apocalypse, c'est ce verset. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Donc l'Apocalypse, entre autres, mais les livres prophétiques, ils ont été donnés pour un but, c'est certainement pas de nous faire peur. On le voit là. Ça doit être quoi pour nous chrétiens la conséquence de ces livres ? C'est qu'il doit y avoir de la joie dans notre cœur. Je nous appelle à une introspection. Est-ce que quand je pense à ces textes, quand je pense à ces choses, est-ce que c'est la joie qui vient dans mon cœur ou c'est autre chose ? Parce que normalement, quand on pense aux révélations, les temps derniers, ce qui se profile à l'horizon, c'est quoi ? C'est le retour du Seigneur Jésus. Et je crois qu'il n'y a pas plus beau pour un chrétien, que de voir le retour en gloire de notre Seigneur. La perspective de pouvoir être enlevé avec lui dans les cieux. C'est quelque chose qui nous garde et qui doit nous donner de la joie. Mais on sait aussi que pour aller au-dessus des nuages, j'avais déjà partagé une fois, qui dit aller au-dessus des nuages, dit nuages. Et quand on est en dessous, qu'est-ce que c'est ? Ben c'est sombre quand même. Et on est appelé à aller au-dessus des nuages. Ça veut dire que les nuages, il faut qu'ils y soient. Donc ça veut dire que dans les temps qu'on vit, mais il y a des nuages, on est d'accord ? Mais c'est bien, c'est normal. L'Apocalypse, comme je disais, elle est partielle. La révélation est partielle, ce qui engendre plusieurs interprétations. La deuxième chose, c'est que personne n'est d'accord sur le découpage même du livre de l'Apocalypse. Vous savez, le livre de l'Apocalypse, c'est quand même complexe. Et il y a plusieurs points de vue. Il y a quand même quelque chose sur lequel on a à peu près, quoi que, ça dépend, mais on est tous d'accord normalement, c'est que les temps de la fin, ils commencent à la croix du calvaire. Souvent on dit les temps de la fin, c'est l'avenir lointain, Mais non, les temps de la fin, selon l'Apocalypse, ils démarrent à la croix du calvaire. Ça fait 2000 ans qu'on est dans les temps de la fin. Sachant qu'il y a déjà beaucoup d'années qui se sont passées avant la croix, déjà. Il y a plusieurs manières de considérer les chronologies des temps de la fin. Et on va le partager ce matin, parce qu'il faut qu'on puisse être au courant qu'il y a plusieurs qui pensent différemment. Nous, on a notre manière de voir les choses, mais encore une fois, notre manière de voir les choses, est-ce qu'elle est juste ? À la limite, on a des convictions, on regarde les textes, on fait des rapprochements, on tire des conclusions, mais ce verset qui me dit que je ne vois que partiellement, il faut quand même qu'il reste là dans notre cœur, parce que peut-être qu'on fait une fausse route quelque part et on n'en sait rien. D'accord ? Il y a une chose qui mettra tout le monde d'accord, c'est la venue du Seigneur. Ça, c'est sûr et certain. Qu'il y ait l'enlèvement ou qu'il n'y ait pas l'enlèvement. Je le dis parce que certains ne croient pas à l'enlèvement. On va le voir. Le retour du Christ. Ça, c'est le premier point sur lequel il faut qu'on regarde. Quand est-ce que le Seigneur Jésus va revenir ? Et là, on parle de la seconde venue de Jésus. La première fois, il est venu comme un serviteur. Il est venu il y a 2000 ans pour mourir sur la croix du calvaire. Et bientôt, il reviendra. Pas comme un serviteur, comme un chevalier, avec son épée, son cheval. Et quand il va venir, ça va être dans la gloire et dans l'éclat. Et il va venir pour juger. Alors, il y a plusieurs théories. Une première théorie, c'est celle-ci, ce qu'on appelle les prémillénaristes. C'est des noms compliqués, mais ça veut dire millénariste, c'est référence au millénium que vous voyez dans le rond orange. Le millénium, c'est une période de 1000 ans pendant laquelle Jésus-Christ imposera son règne. Il sera le roi. Une dictature, une bonne dictature mondiale. D'accord ? La croix en rouge symbolise le second retour du Seigneur. Et donc il y en a plusieurs qui croient que le royaume du Seigneur sera mis en place après sa seconde venue. Et c'est notre cas. C'est notre position. Et pourquoi nous tenons cette position ? Parce que c'est une position la plus, à notre sens, la plus proche du texte. Et ce qu'on appelle une position littérale. D'accord ? Ça, c'est notre position. C'est ce que nous, on croit. C'est ce que nous prêchons. Parce que nous en sommes convaincus. Mais voilà, je rappelle que il y a peut-être quelque chose qu'on ne voit pas. Et peut-être que sur un point, on n'est pas bon. On ne sait pas. Il faut toujours avoir ça à l'esprit. La deuxième position, c'est ceux qui pensent que le millénium sera avant le retour de Jésus. Donc c'est ce qu'on appelle les post-millénaristes, parce qu'il est question de la deuxième venue du Seigneur. Donc ils pensent que le Seigneur reviendra après le millénium. Et donc ça veut dire quoi ? Et c'est la position, comme je l'ai écrit, des chrétiens des premiers siècles, parce que les chrétiens des premiers siècles traversaient des persécutions. Et comme Jésus aussi avait évoqué, il y avait peut-être un problème d'éclairage, parce que Jésus, quand il était parmi les hommes, il disait « Le royaume est là !» Il disait « Le royaume est là !» Donc en fait, les premiers chrétiens, ils étaient convaincus que le royaume de Dieu était déjà là. Et donc que le royaume de Dieu était là, mais qu'en même temps, ils subissaient toutes sortes de persécutions qui ont été d'ailleurs annoncées par le Seigneur lui-même. Et pourquoi cette position, quelque part, elle a disparu ? Mais parce qu'aujourd'hui, nous sommes en l'an 2000. Donc, y a un problème. D'accord ? Donc, cette opposition, aujourd'hui, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que ce n'est pas ça. Et il y a une troisième position, qui est la position amillénariste. Alors, le A, c'est une préposition qui veut dire qu'il n'y en a pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de millénium. Et qu'en fait, finalement, la position amillénariste, c'est de dire que tout est symbolique dans la parole. Et la raison pour laquelle on s'oppose à cette vision-là, c'est parce que finalement, ça fait référence à une question que malheureusement on trouve dans la Bible, qui est posée par le diable lui-même. Dieu a-t-il réellement dit ? On commence à remettre tout en question. Et finalement, en remettant tout en question, on ne sait plus où est la gauche, on ne sait plus où est la droite, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Et finalement, toute la Bible, c'est un livre humain, finalement. Et c'est très important de comprendre ça, Parce que c'est la position catholique. La position catholique, elle reste quelque part sur la première, celle qui précède, qui disait que le royaume de Dieu était déjà là. Bon, 1000 ans se sont passés, ils ont revu leur copie, mais ils sont restés quand même sur le même principe. À savoir que ils se sont dit, mais finalement, pour concorder avec notre manière d'être, il faut que ce millénium, on en fasse un symbole. Donc, il n'y a plus de millénium. Il n'y a plus de millénium. Et finalement, l'Église, avec un grand E, et là, il faut penser même l'Église catholique, doit imposer sa vision des choses. C'est pour ça que j'ai mis une petite note. Parce que ça aide à comprendre la géopolitique aujourd'hui. Parce qu'on voit que la position amillénariste de l'Église catholique nous aide à comprendre la vision du Vatican et de son action géopolitique aujourd'hui. Parce qu'on voit que le pape, eh bien, c'est un homme d'État. Et le pape a pour but, quelque part, l'Église catholique poursuit un but bien précis, c'est que l'Église gouverne le monde entier. De par cette conviction. Mais il faut comprendre qu'il y a une conviction là. Et ils sont droits dans leur conviction et ils avancent par rapport à cette conviction. Et donc l'Église catholique, eh bien, elle travaille de cette manière. Ça veut dire qu'elle va aller jusqu'à imposer, parce qu'elle est convaincue qu'elle est le royaume de Dieu, et elle va travailler à imposer justement sa manière de voir les choses. Donc en ce qui nous concerne, nous sommes dans une position pré-millénariste. Ça veut dire que le Seigneur Jésus va revenir et qu'ensuite, il imposera son règne sur la terre, littéralement. On avance. Maintenant, on va parler de l'enlèvement de l'Église. Alors, c'est très concis tout ce qu'on voit, mais si vous avez des questions, vous pouvez vous inscrire au cours Insté. vous pouvez venir nous voir éventuellement. On ne peut malheureusement pas aller plus loin dans les détails. D'accord ? Maintenant, on va parler d'un autre thème, c'est l'enlèvement. Et bien qu'au niveau des églises évangéliques, on soit tous d'accord sur la seconde venue du Seigneur, il faut admettre que même parmi les évangéliques, tout le monde n'est pas d'accord sur l'enlèvement de l'Église. Alors, voilà une position. Dans l'Apocalypse, on apprend qu'il y a un passage, et dans Daniel, on apprend qu'il y a une période de temps qui s'appelle la grande tribulation, ce qu'on appelle en d'autres termes aussi la colère de Dieu, le jugement. Je ne parle pas du jugement dernier, je parle du jugement des hommes de la terre. Ça veut dire que Dieu, de la même manière qu'il a permis 10 plaies en Égypte avant de sauver son peuple, eh bien, en ce qui nous concerne, il va arriver un peu la même chose, à savoir que Dieu va permettre des plaies, entre guillemets, à l'échelle mondiale, ce qu'on appelle la grande tribulation. Ça va être un temps terrible de souffrance. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est du pipi de chat ce qu'on vit, à côté. Excusez-moi l'expression, mais il faut mettre les choses à leur place quand même. Et on voit quoi ? On voit qu'aujourd'hui, les gens, avec ce que je dis là, cette expression, les gens déjà, ils sont terrorisés au dehors. Et malheureusement, des fois, même chez les chrétiens. Et ça, c'est pas normal. Ce qui attend les hommes et les femmes pendant la grande tribulation, ça sera terrible. Et ce qu'on vit, c'est rien à côté. Donc, ce que dit ce schéma, c'est que ici, il n'y a pas d'enlèvement de l'Église. Ce qu'on appelle, il n'y a pas d'enlèvement. Et donc, la délivrance des enfants de Dieu, elle viendra directement avec la seconde venue du Seigneur. Ce qui laisse sous-entendre que les chrétiens traverseront la grande tribulation. Ça veut dire que cette période de 7 ans, qui sera terrible, les chrétiens vont la traverser aussi. Donc ça voudrait dire que l'Église devrait souffrir et vivre la colère de Dieu. Ça voudrait vivre. Je vous explique un peu notre position pour laquelle on n'est pas d'accord. Ça voudrait dire que l'Église, l'épouse, elle va subir un jugement, alors que quand on lit la parole, on voit qu'elle est préservée du jugement. C'est la mariée quand même. Alors la mariée, elle est préservée. Dieu ne bat pas sa femme. Hein. Moi, je crois pas. Hein. Alors, il y a une autre vision, qui est la vision pré-tribulationniste. Et là, on est ce schéma résume notre conviction. C'est-à-dire que ce que nous croyons, c'est que viendra un moment où l'Église va être enlevée. Ce sera le premier signe pour les gens de ce monde. Parce que quand l'Église sera enlevée, ça va créer du désordre quand même. Certains vont y voir clair. Je pense notamment à tous ceux avec qui vous avez des relations, tous ceux qui savent que vous croyez en Dieu, tous ceux qui vous ont peut-être entendu dire que vous croyez à l'enlèvement. Le jour où vous disparaîtrez, du jour au lendemain, il y en a quelques-uns qui vont réfléchir. Alors, il y en a d'autres qui vont se laisser convaincre par Hollywood et les extraterrestres, mais d'autres vont se laisser convaincre par la théorie de l'Église. Je dis ça sans plaisanter, je plaisante qu'à moitié, malheureusement. Parce que Hollywood, il a un maître aussi. Et ce maître-là travaille bien à semer des graines qui nous montrent, qui préparent les gens à adopter certaines théories. On voit l'homme a tellement envie de découvrir une vie à l'extérieur de cette planète que le jour où ils seront face à un démon qui va venir, il va falloir qu'ils y croient. La dernière, c'est la mi-tribulationniste. Ça veut dire que l'Église serait enlevée, mais pas complètement préservée de la tribulation, à savoir que cette tribulation est séparée en deux temps, un temps de séduction, donc pas de grosse souffrance, on va dire, si on peut dire ça comme ça, et un temps de souffrance physique. Et en fait, ces souffrances-là seront épargnées à l'Église et le Seigneur reviendra au milieu. Chercher l'Église au milieu de la tribulation. Concernant la date, est-ce qu'on peut donner une date ? Deux textes ici nous montrent, vous prenez des notes si vous voulez des versets, Marc 13, 32, Matthieu 13, 28, un texte qui nous dit, Jésus lui-même dit qu'il ne connaît pas lui-même le jour ni l'heure, et un deuxième qui nous évoque la saison, les signes. Alors on peut se dire qu'on est dans les temps de la fin grâce à ce deuxième verset, mais pour autant ça ne nous empêche pas, ça nous empêche quelque part de donner une date. D'autres ont essayé ils ont cru vivre le dernier moment avant nous. Il y a eu la Révolution française, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Plein ont cru que le Seigneur allait revenir dans ces moments. Il n'est pas revenu. Jésus, il n'a pas donné de date. Pourquoi nous, on le ferait ? C'est pas logique. Si Jésus s'y est refusé, on ne va pas nous s'y essayer. Il n'y a pas de raison. Est-ce que connaître la date, c'est important ? Sachant que le Seigneur peut nous retirer la vie à tout instant. Le Seigneur nous appelle à une chose, c'est à être prêt, point. Peu importe le jour, peu importe l'heure. La marque de la bête, je suis obligé d'y venir. On a ces deux textes-là, ça va être très simple. Hein. Le contexte de ces versets qui parlent de la marque de la bête, et le nombre de son nom, qui est 666, ce sont des textes qui sont concernés par la grande tribulation. C'est aussi simple que ça. Est-ce que nous sommes dans la grande tribulation ? Non. On n'y est pas, parce que l'Église n'a pas été enlevée. Évidemment, ce que je vous partage, c'est notre position. Mais on ne peut pas s'essayer à écouter tout le monde et à essayer de considérer tout ce qui se dit. Nous avons une position qui est de croire que la tribulation n'y est pas et que donc cette marque de la bête, elle concerne uniquement quelque chose qui servira à acheter, à vendre, effectivement un truc qui permettra de contrôler peut-être les gens, mais c'est certainement pas le vaccin. Le vaccin, ce n'est pas la marque de la bête. Je pense qu'il faut qu'on le dise d'une manière claire, nette et précise, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont des erreurs. Le vaccin contre le Covid, ce n'est pas la marque de la bête. Je ne sais pas si je peux être plus clair. Et enfin, le passeport vaccinal, non plus. Le passeport vaccinal ne vous fera pas perdre votre salut. Maintenant, chacun a ses convictions. Chacun va prendre une position par rapport à ce qu'il pense. Et voilà. Mais en ce qui nous concerne, on respecte ceux qui se font vacciner et ceux qui ne se font pas vacciner. Chacun est libre de sa conscience, comme du salut. C'est comme ça de toute chose, finalement. Voilà, j'en ai terminé, moi, pour cet aspect des choses. Je laisse la place à Frédéric.
Je suis content de ce qu'a introduit Jonathan, partagé. Jonathan, hormis, il a dit la dictature pendant le millénium, il s'est rattrapé à temps. Hein. Oui, on a été interrogé parfois, alerté, ou on nous a demandé des positions. Alors, jusqu'à présent, on n'a rien dit. Personnellement, moi, je n'ai pas voulu trop en parler parce que je me suis dit que c'est personnel sur certaines situations. Et on peut avoir un avis qui nous est propre. On a tous la parole, à nous de la sonder, de la connaître. Le problème, c'est que des fois, il y a des interprétations ou des choses qui sont véhiculées et qui sont compliquées. J'avais prévu une description, mais elle a été faite. Donc, je vais passer carrément au conseil biblique. Alors, il a dit que j'allais parler de la vaccination. Je vais avoir une réponse de Gascon. Que penser de la vaccination, en fait, oui. Je dirais, on a toujours eu dans l'histoire de l'Église, et toujours eu, même dans l'histoire de l'Église ici, par exemple, depuis 50 ans, on a eu des situations où on pouvait avoir sur certains aspects des convictions différentes les unes des autres. Hein, tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu des sujets où l'unanimité des chrétiens n'est pas là. Pourquoi ? Parce que c'est une conviction, parce qu'il y a des choix, etc. On va lire ensemble un texte biblique, si vous voulez bien, dans Romains. Nous allons voir que dans les premiers siècles de l'Église, il en était de même. Il y avait des situations qui amenaient... C'est un peu aigu, tu ne peux pas régler, je trouve que ça résonne, s'il te plaît. Romains chapitre 14. Nous allons voir là dans ce récit, et je vais faire une digression pour venir à notre sujet. On va assez vite, on s'est donné 20 minutes chacun, donc il faut que, comme on a décalé de 2 minutes, il faut que j'avance. Romains chapitre 14, verset 1er. Faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point. Celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu lui a fait bon accueil. Bon, Dieu lui a fait bon accueil, pardon. Qui es-tu ? Toi qui juges, un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe, sous le regard de son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de soutenir. Tel juge un jour supérieur à un autre, tel autre les juge tous égaux, que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. Celui qui se préoccupe des jours s'en préoccupe pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce, etc. Si vous lisez ce passage, et on va y rester, hein, s'il vous plaît, on va lire quelques extraits, vous apercevez que il y a deux points de vue ici qui sont mis côte à côte, et l'apôtre n'est pas inspiré par l'esprit, ne donne pas une orientation spécifique. Il dit simplement que ça dépend de convictions personnelles, propres, qui sont là, et que nous ne devons pas juger les convictions de l'autre. Hein, mais voilà, on va un peu plus loin. Verset 13. Nous jugeons donc plus les uns les autres, usez plutôt de votre jugement, pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Voilà, je sais et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un estime qu'une chose est impure, alors elle est impure pour lui. Voilà, si pour un aliment ton frère est attristé, et vous savez que dans notre sein, dans nos églises, il y a quelques années en arrière, si on mangeait du boudin, on était suspect, ça posait préjudice. Alors peut-être certains disent oh, pourquoi ? Ben c'est parce que vous ne le savez pas, mais c'était ça. Si on faisait ça, ça pouvait porter à confusion chez l'autre. Et on était prudent. Et peut-être aujourd'hui encore, quelqu'un dit, moi, je ne veux pas manger d'aliments, pardon, avec du sang d'animaux, etc., étouffé. Voilà, on pourrait parler de plusieurs choses. Regardez au verset, je vais vite, hein, vous l'avez compris, j'ai pris le TGV. Verset 16. Ce qui est bien pour vous ne doit pas être un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes.
Donc on voit qu'au début, Paul parle donc ces deux aspects entre les jours. Il y en a, ils font des fêtes. Si vous parlez avec un adventiste, il vous tarabusquera avec le sabbat et vous met une tête comme ça. Hein. J'ai été pris en otage une fois, j'ai resté une après-midi, j'ai cru que ça allait tourner vinaigre. Pourquoi ? Parce qu'on m'a bassiné sur le sabbat. Mais j'ai dit, mais moi j'ai lu ce texte-là, je l'aurais lu. J'ai dit, mais moi je vous respecte. Mais n'essayez pas de me convaincre, et moi je n'essaie pas de vous convaincre. Mais ils n'ont pas pu s'empêcher, ils ne m'ont pas convaincu quand même. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu, c'est-à-dire on cherche la paix. Il peut y avoir des différences de compréhension, mais ce qui est important pour nous, c'est ce verset 17, c'est le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, comme pour dire nous ne trompons pas, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et celui qui fait ça, il est agréable au Seigneur. Alors je dis ça et on revient au vaccin, etc. Que faire ? On doit avoir des convictions personnelles propres, mais réelles, profondes. Bien sûr, on n'est pas scientifique. Bien sûr, on écoute tout un tas d'informations, des fois qui sont contraires les unes aux autres. On ne sait plus où on habite parfois face aux informations. Mais je dirais, c'est à nous à chercher Dieu et avoir une conviction personnelle. Je fais ou je ne fais pas. Mais je respecte l'autre même s'il ne fait pas ou il s'y fait. Et je ne suis pas dans un jugement. Je peux avoir un avis. Le problème, c'est que quand on a des convictions, on a tendance à vouloir un petit peu prouver à l'autre. Et c'est là ce qui n'est pas facile. Mais le comportement qui nous est mentionné ici, au lieu de juger, voire de mépriser, parce qu'on entend de ces choses, et moi, je suis abasourdi quand j'entends même des chrétiens qui postent des choses qui sont aberrantes. Hein. Je me dis, Seigneur, donne-moi de l'amour. Parce que ça, ce n'est pas l'amour. Hein. Ça, c'est du jugement, c'est de l'accusation. C'est difficile, c'est des détournements. Il vaut mieux veiller à ne pas offenser, blesser. Et peut-être vous allez dire, oui, mais quelle est ta position dans le monde, etc. On va en parler de ça tout à l'heure. Faisons attention. Prenons en notre âme et conscience, ayons une conviction qui nous est propre. De grâce, ne jugeons pas ceux qui se font vacciner ou ceux qui ne se font pas vacciner. Si on fait ça, on retombe sur tout un tas de comportements que certains pointent du doigt au niveau gouvernemental et tout ça, mais il faudrait mieux de se tourner vers eux. Hein, je le dis comme je le pense. Alors, c'est l'autre question. Faut-il manifester ? Faut-il réagir ? Faut-il envoyer plein de mails et tout ça ? D'ailleurs, je fais une annonce. Ne m'envoyez pas des mails qui concernent tout ça. Je n'en veux pas. Parce qu'il y a des orientations, on me propose des pétitions. Je n'en veux pas. Et vous me sortez de votre boîte de mails si c'est le cas. On est inondé d'infos via les moyens de com, tout un tas de choses sont dites, etc. Hein, et ça stimule parfois un petit peu la réaction, la réactivité. Il faut faire quelque chose, comme si nous on avait le pouvoir de faire beaucoup de choses. Mais bon, il faut aller à la rue, etc. Les posts, les pétitions, les vidéos et tout ça, vous les gardez. Je veux bien m'interroger, je m'interroge sur plein de choses, mais j'avoue que des fois ça m'énerve parce que c'est un peu facile. Le chrétien, lui, subit plus ou moins d'influence. Et il aurait tendance, des fois, à aller jusqu'à réagir et à se prouver en disant quelque chose. Mais faisons attention. Hein ? Que penser de tout ça ? Je me suis posé la question, que penser de... Est-ce que je dois réagir dans la société ? Comment je dois faire ? Ça m'est venu à l'esprit, je me suis dit, mais comment ils ont réagi au temps de Jésus ? Regardez du temps de Jésus. Jésus va choisir 12 apôtres, il y en a deux là. S'il y en avait deux qui devaient se mépriser, c'est les deux Simon. Non, pardon, c'est pas Simon. Il y a deux Simon, oui. Il y en a un, c'est Simon le Zélote, je dis une bêtise. Simon le Zélote, qui était lui un résistant contre l'occupant romain. Et il y avait Matthieu le Péager, qui était lui, quelque part, un collabo romain. Je fais un raccourci, comme certains le font. Hein ? S'il y en avait deux qui devaient se mépriser ou militer l'un contre l'autre, c'était ces deux. Et Jésus a pris des gens différents, mais il les a amenés tous à venir là et à avoir une autre attitude de cœur. Nulle part Jésus enseigne à se rebeller contre l'occupant romain. Pourtant, mes amis, il était oppressé par les Romains. Pourtant, quand il était amené devant Pilate, il avait de quoi y mettre quelques coups sur le coin du nez. Pourtant, il va demander une réaction. D'ailleurs, même quand Pierre vient, et Gethsémané, on vient chercher Jésus, Pierre, il prend l'épée, il coupe l'oreille droite de Malchus, et Jésus lui fait comprendre que, oh mon gars, là, tu ranges ton épée. Hein, il lui dit dans Matthieu 26, 52, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu, et j'aime bien cette question, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait en laissant plus de 12 légions d'anges ? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» Comme pour dire, « Penses-tu que toi tu vas changer le plan de Dieu ? Pierre, crois-tu que tu vas interférer dans le plan que j'ai pour salut pour ce monde ?» Hein, et bien sûr, Pierre, il a été dans son élan. Et des fois, en tant que chrétien, on peut avoir une réaction et on dit des choses et on fait des choses et tout ça. Mais mes amis, rappelons-nous la parole. Avons-nous la prétention de changer l'accomplissement du plan divin, aujourd'hui encore ? Avons-nous, vous savez, je vous donne un exemple, et je ne critique pas, hein. En Éthiopie, là, actuellement, il y a eu un Premier ministre, ça fait 2 ans, 3 ans qu'il est passé Premier ministre, c'est un pentecôtiste. Lui, il dit ceci, il s'appelle Abiy Ahmed, je ne juge pas, hein, j'essaie de comprendre. Il estime avoir été élu pour sauver le destin de son pays, sa foi influence la plupart de ses décisions, jusqu'à l'offensive lancée en novembre au Tigré, et dont les conséquences désastreuses sont loin d'être terminées. C'est-à-dire qu'au nom de sa foi pentecôtiste, il a réussi pendant 2 ou 3 ans à... vous savez, il y avait l'Érythrée qui est au nord et sur la côte qui prend toute la bande de la mer, là. Il a réussi à arrêter ces tensions qu'il y avait entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Ça a été formidable. Et il a été un instrument utile. Hein. Mais voilà qu'au nom de sa foi, il a engendré d'autres guerres tribales, etc. Je crois que c'est dans l'ouest du pays. Et il dit ça. Mais je me dis, est-ce qu'il n'a pas été trop loin ? Et moi, je me dis, en tant que chrétien, on n'est pas Dieu. C'est lui qui fait son plan. Et des fois, il y en a, ils disent, mais on peut changer la face du monde. Non, on ne changera pas la face du monde. La Bible ne dit pas que tu vas changer la face du monde. Bien sûr que je suis pour qu'il y ait des chrétiens qui soient élevés en dignité, qui soient, je sais pas, au ministère, là, qui aient une influence, mais ce n'est pas eux qui vont changer le monde. C'est le Seigneur qui fera grâce. Hein ? Et attention, nous n'avons pas de prétention. Je vous donne cet exemple pour vous donner un exemple d'actualité. Hein ? Et je prie pour ce gars-là, je n'ai pas de haine contre lui. Hein ? Par contre, Jésus nous a enseigné plusieurs choses, et je vais les ressouligner ce matin. Concernant les temps de la fin, ça a été dit par Jonathan, il faut les connaître. Le problème, c'est que des fois, on avale les couleuvres parce qu'on ne connaît pas ou on oublie la parole. Mes amis, là oui, il faut être prudent. Si je passe sur la parole, je vais être emporté à tout vent de doctrine. Et quand doctrine, ce n'est pas obligatoirement la doctrine biblique. Toute pensée, tout, voilà, alors le premier qui a parlé, celui qui a la plus grande voix dans ce monde, celui qui a raison, etc. Ça, pour moi, il faut faire attention, c'est nécessaire de connaître la parole et d'apprendre. Et comme il a été dit, il a fait la pub, j'allais la faire aussi. Il y a des cours bibliques, il y a des choses pour lesquelles on travaille, on se met en route. On n'est pas là juste pour faire le décor, mais pour dire, Seigneur, voyez, il y a ça qui existe, la parole nous dit ça. Ce que nous a enseigné le Seigneur, c'est le maintien de notre foi. Il nous a dit, il nous a fait comprendre qu'il nous faut maintenir notre foi. Et c'est seulement dans ce domaine-là qu'il faut apprendre à combattre. S'il y a une chose dans laquelle on doit combattre, c'est dans la foi, dans le monde spirituel. C'est là. Et Jésus l'Esprit-Saint a inspiré l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 6, avait l'armure du croyant. L'armure du croyant, c'est l'armure du combattant. Hein, c'est la seule image à ce moment-là pour la foi où on voit le combat, mais pour la foi spirituelle, pour le cœur. Et la seule épée, c'est celle de l'esprit. Et non pas les combines des hommes avec leurs pétitions, leurs stratégies, leurs associations. Je ne critique pas, je ne juge pas, mais je dis, pour moi, ce n'est pas ma place. D'après ce que je vois dans la parole. C'est lui qui est souverain. Vous savez, quand il fait mention de l'apôtre de Jésus, dans l'Apocalypse, très souvent, il fait mention de Jésus, il a une langue comme l'épée, je vous lis dans Pergame, par exemple, Apocalypse 2,16, « Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Comme pour dire, c'est comme si le Seigneur disait, « Voyez, la puissance, c'est ma puissance, c'est pas la puissance des hommes. » Alors, on peut avoir des convictions, bien sûr, et c'est nécessaire d'en avoir, mais de là à être dur. Vous savez, il y a des gens, ils critiquent tout le temps le gouvernement, peu importe le gouvernement. Si tu critiques le gouvernement, bien sûr que je n'en ai pas d'accord, moi il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, bien évident. Mais si tu critiques le gouvernement, tu es toujours en train d'accuser, voire même de faire des trucs, des machins, tu es anti-biblique. Parce que la Bible ne dit pas ça. Elle ne parle pas de pétition, de manif, elle ne parle pas de ça. Elle dit quoi ? Hein ? Il est dit, il nous demande d'être sage. Et Jacques dit, dans chapitre 3, verset 13, Jacques 3, 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse ?» Mes amis, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, verset 15, mais elle est terrestre et charnelle, diabolique, quand il parle de la sagesse des hommes. La sagesse en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Hein ? La parole est claire. Si tu ne sais pas te situer, c'est parce que tu ne regardes pas la parole, mais la parole est claire. Et puis elle est claire par rapport aux autorités. Elle dit de prier pour ceux qui nous gouvernent. C'est facile de critiquer des inconvertis. C'est facile. Parce que vous savez qu'en étant déjà, en tant que chrétien, c'est difficile d'être fidèle toujours. Alors l'inconverti, vous croyez qu'il sait où il doit aller ? spirituellement parlant. Non. Alors au lieu de te rebeller contre les hommes qui sont ténébrés et d'agir et de réagir, la Bible dit dans Timothée 2:1, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Vous remarquerez que dans les textes que je viens de lire, plusieurs textes, à chaque fois il est fait mention que ça plaît au Seigneur. Hein ? Ici, nous pouvons bien sûr ne pas être d'accord avec les accents politiques ou les orientations ou les choix, bien évidemment. Je ne dis pas qu'il faut toujours accepter tout dans la vie, mais ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser et voire se rebeller. Le fils de la rébellion, et Satan, c'est le père de la rébellion, et les fils de la rébellion, c'est les hommes qui sont dans les ténèbres. L'enfant de Dieu, il n'est pas dans la rébellion. Ça ne veut pas dire non plus qu'il est, excusez-moi, un toutou. Il a le droit d'avoir des opinions, il faut qu'il ait des opinions. Mais il y aura peut-être un moment donné où il faudra réagir sur des lois tout à fait précises. Mais là, à militer, etc., moi je m'inquiète de ce qu'on peut faire. Et si même ils étaient nos ennemis, qu'est-ce que dit la Bible ? Qu'est-ce que dit Jésus ? Il dit, vos ennemis, il faut les lapider ? Il faut, allez, on va aller leur faire la misère ? Non, la Bible dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Ça, c'est Jésus qui dit ça en parlant de la loi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Est-ce que vous priez, est-ce que je prie pour le gouvernement dans lequel on vit ? Je ne suis pas politicien du tout dans l'âme, mais je sais qu'ils ont besoin de la prière. Ils ont besoin. C'est facile de jeter des pierres. C'est plus difficile de se mettre à genoux. C'est facile de toujours regarder les autres d'en haut et de dire « moi, je sais tout » et penser que l'autre est supérieur à soi-même, ce n'est pas facile. Et j'aimerais pas être à leur place, honnêtement. Hein ? Alors oui, on peut dire, oui, il y a un complot, oui, il y a le chiffre de la bête, oui, baratin. Si on est paranoïaque, bien sûr, on aura un souci. Hein ? Il faut faire attention de ne pas aller trop vite. Bien sûr qu'il y a des signes. Bien sûr qu'il y aura des choses. Bien sûr qu'on est dans les prémices de certaines choses. Mais de là à de suite paniquer, ça prouve que peut-être il faut que je revoie ma base. Parce que peut-être je suis fragile à cause du mouvement. Alors je suis dur dans ce que je dis. Je le sais ce matin. Je le sais. Mais je peux pas, j'en ai assez d'entendre des choses que je trouve extrêmes, que je trouve dangereuses même, et inquiétantes pour moi, parce que je me dis, la foi là, elle est où ? Est-ce qu'elle est ancrée ? Est-ce qu'elle est attachée ? Ou est-ce qu'il y a une inconscience ? Alors je ne juge personne, croyez bien. Si je dois juger, c'est moi le premier. Mais je voudrais conclure. Dans une dimension personnelle, c'est en notre âme et conscience qu'on doit savoir si on veut faire ça ou pas. Voilà. Et avoir une cohérence dans ce que je pense. Mais il y a une chose qu'on doit faire, c'est se sanctifier, toujours prêt. Être toujours prêt pour le Seigneur, toujours plus se sanctifier, parce qu'il va venir, c'est vrai. Et comme disait Jonathan, il nous faut être prêt à tout temps. Et même si je ne comprends pas toujours tout ce qui se passe, ce que je dois comprendre, c'est que je dois être prêt. Ça, c'est clair. Le reste, après, on essaie d'y voir clair, on essaie flou, et puis il y a plein de rebondissements. Vous savez, je me rappelle quand j'étais plus jeune, adolescent, dans cette église, j'entendais des choses sur les temps de la fin. Je me rappelle avoir entendu, et ce n'est pas une critique du tout, hein, mais avoir entendu, oui, le pape, c'est peut-être... il y avait tout un tas de spéculations. Et gamin, j'avais été marqué par ça, mais après, avec le temps, j'ai dit, finalement, tout ce qui a été dit là, ces interprétations, elles sont que interprétations. Et ça mettait un petit peu de l'eau dans le vin. Et des fois, on entend de ces choses qu'il faut faire attention de ne pas les croire tout de go. Ce qu'on doit croire, c'est la parole. C'est la parole. Dans une dimension communautaire d'église, nous devons rechercher l'unité malgré la diversité. S'il n'y a pas un rang pour ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne sont pas vaccinés, et ceux qui sont en attente, ils ne savent pas où ils vont. Non, il n'y a pas ça. D'accord ? Si vous parlez de ça, parlez vous personnellement ou parlez à quelqu'un, mais on n'influence pas. Si on influence, ça veut dire qu'on cherche à convaincre l'autre quelque chose. Mais si tu aimes ton frère, tu le laisses choisir. Regardez comment Dieu fait avec nous. Il ne nous impose pas. Parce qu'il nous aime, il nous laisse choisir. Pourtant, il aurait de quoi nous imposer tellement je suis limité. Et non, il ne le fait pas. Hein ? Donc, on va chercher l'unité. Parce que nous, notre désir, ce n'est pas être pour ou contre. Notre désir, c'est être pour lui. Et après, le reste, on essaie de faire comme on peut tous. Notre priorité, c'est d'être prêt en tant qu'Église. Au niveau national, au niveau communautaire, au niveau pays de notre nation, nous devons réagir spirituellement. Et c'est une chose qu'on doit faire. Au lieu de faire tout un tas de démarches dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est prier. Prier. Parce que la prière a une grande efficacité, bien plus que tout ce que vous pouvez signer, faire comme démarche. Ça, c'est rien. C'est rien. Et on pourrait donner des témoignages de comment Dieu fait des choses qui sont extraordinaires si c'est dans le lieu secret. Et combien de fois chacun d'entre vous, vous avez essayé des choses qui n'étaient pas arrivées, vous avez cherché Dieu, prié, et bizarrement, ou pas bizarrement, extraordinairement, voilà que les choses sont débloquées d'une manière formidable. Pourquoi ? Parce qu'on a remis les choses entre les mains du Seigneur. Et nous, on avait essayé, à notre niveau, ça n'a pas marché. Ça c'était plutôt compliqué, on n'y arrivait pas, ça se bloquait. Voilà. Mais on voit la main du Seigneur. On voit la main du Seigneur, et c'est lui qui se glorifie. Alors, ces conseils sont, c'est saupoudré, je le comprends, et je vais terminer. C'est assez, peut-être, ça peut-être fait mal à certains, et ce n'était pas le but. Et si c'est le cas, veuillez m'en excuser. Le but, c'est de dire, attention, revenons à l'essentiel, l'amour de Dieu, le respect du prochain, le non-jugement, mais l'intercession. Oui, c'est difficile de se situer, c'est difficile des fois de comprendre. On ne sait pas tout, je ne suis pas scientifique. Donc je ne vais pas m'engager sur un truc que je ne sais pas. Je ne vais pas non plus gober tout ce qui se passe et qui a un titre de chrétien sur le net. Il y en a plein de choses qui sont là. Et des fois, il y a des choses, moi j'ai envie de dire, c'est pas chrétien là. C'est autre chose là. Et je regarde aussi, hein, mais des fois j'ai vite coupé court. Hein, parce que je dis, oh, wow, ça va où là ? C'est pas biblique. Ça, c'est pas biblique. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est de la manipulation. Ça, c'est autre chose. Nous ne laissons pas berner. Nous ne laissons pas berner. Par contre, vous ne serez jamais berné par la parole. Et si vous avez des questionnements, on peut prendre un temps, on peut chercher Dieu, on peut travailler sur un sujet, il n'y a pas de problème. On peut chercher ensemble, dans la parole, des concordances, réfléchir, travailler, sans problème. Ça, on le fera volontiers, c'est notre j'allais dire job, non, c'est notre vocation de chercher Dieu avec vous, de regarder ça. Mais ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas berner. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais la chose à faire, c'est prier et accepter cela. On prie ensemble, justement. On va demander au Seigneur de nous donner sa sagesse et non pas la sagesse humaine que veut nous faire croire et parfois qu'elle est bien, mais pour moi elle n'est pas bien. Elle nous a dit, vous avez eu le mot dans Jacques, c'est diabolique, c'est bizarre cette expression, j'ai regardé de plus près et c'est bien le mot exact. Et je me disais, comment il parle diabolique ? C'est-à-dire qu'elle est teintée de cet esprit du monde et de l'esprit du péché et non pas de l'esprit du Seigneur. On va demander au Seigneur de nous aider dans toutes ces choses. C'est toi qui tiens le gouvernail des églises, du temps, de la vie. C'est toi le maître de toutes choses. Tu nous prêtes vie et ici-bas, nous ne voulons pas, Seigneur, prétendre à être au-dessus, à mieux comprendre, à connaître plus, etc. Mais nous voulons plutôt, Seigneur, chercher à sonder tes écritures, à comprendre ta parole. Et aide-nous de comprendre les temps et les moments, comme les fils d'Issacar qui comprenaient ces choses. Nous te demandons ta grâce pour faire de chacun d'entre nous des hommes et des femmes qui ne sont pas basés sur des sentiments, des réactions sentimentales, sur des pensées humaines, mais qui sont fondées et fixées sur ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas nous juger les uns les autres, nous voulons nous bénir les uns les autres. Et donne-nous de préserver notre langue et, Seigneur, de vouloir orienter. Fais-nous grâce, Seigneur. Et permets-nous, Seigneur, de ne pas faire de faux pas. Si nous en faisons, fais-nous grâce pour reprendre le bon chemin. Seigneur, nous voulons bénir ceux qui nous gouvernent aussi, dit ta parole. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui nous ne comprenons pas, ces lois qui sont en train de se mettre en place, sur le séparatisme et tant d'autres choses. Mais nous savons, Seigneur, que toi, tu n'es pas dépassé par tout cela. Alors nous voulons te dire, Seigneur, bénis ceux qui sont élevés en dignité. Donne-nous de les respecter, de les honorer, sans pour autant toujours tout accepter, mais de prier pour eux chaque jour, de nous engager dans le fait de chercher ta face et d'intercéder abondamment. Fais-nous grâce de ne pas nous tromper de combat, de ne pas passer à côté de ce que tu voudrais alors que nous nous éparpillons sur des choses secondaires, que nous puissions rester fixés sur toi. Bénis chacun et chacune dans sa vie, dans son cœur et son âme. Seigneur, tu veux bénir ton peuple, tu veux lui donner du courage, de la force, et de rester dans la paix et le repos de la foi. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, mardi soir, nous nous retrouvons.